Vous écoutez L'Autre Monde et ce soir nous sommes avec le groupe Une Vraie Gothique pour parler de cet album Rendez-vous au cimetière. Bonjour Ferdinand, bonjour Claire.
Bonjour.
Bonjour.
Donc nous sommes là pour donc discuter de cet album qui est sorti le 27 mars chez Manic Dépression. Comment s'est fait la rencontre avec ce label parisien pour Une Vraie Gothique?
Moi, je connais Manic Dépression et notamment Vincent depuis 20 ans à peu près, à l'époque du Catabar, pour celles et ceux qui ont connu ce bar gothique parisien. Et on s'est rencontrés à l'époque parce qu'on était sur le forum Punish Yourself tous les deux. Lui, c'était l'administrateur de ce forum, qui est un peu un forum qui a compté pour moi parce que j'ai découvert pas mal de gens et de musique là-dessus. Et du coup, je savais que Vincent faisait partie de ce label-là, enfin, qui était cofondateur de ce label-là. Le truc, c'est que quand on a listé les labels qui pourraient potentiellement être intéressés par notre projet, j'ai dit à Claire, Manic Dépression, ça ne marchera pas parce qu'ils sont trop premier degré pour nous. Or, il s'avère qu'à un moment donné, Claire m'a dit, mais attends, mais tu connais quelqu'un chez Manic Dépression et on ne les contacterait pas parce que selon toi, on serait trop premier degré, enfin, ils seraient trop premier degré pour nous. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était un peu dommage, sachant qu'on est un groupe goth, de ne pas faire appel au label goth parisien Manic Dépression, alors que voilà, ça pourrait complètement matcher. Et donc, on a contacté donc Vincent de Manic Dépression. En fait, on l'a fait en même temps. Elle a fait un mail assez formel et j'ai fait un message beaucoup plus informel. Et du coup, il m'a répondu, oui, j'ai vu ton mail, je me demandais pourquoi c'était aussi formel. Et puis finalement, on en a discuté, il a écouté, il s'avère qu'en plus, il a apprécié l'album. Alors à la base, c'était un EP, et finalement, c'est devenu un album parce que Manic Dépression sort des albums. Donc on a transformé cet EP en album. En fait, il a juste fallu joindre les morceaux que nous avions déjà à notre EP et pour atteindre les 9 titres qui sont donc sur l'album maintenant. Et voilà, ça s'est fait comme ça, par une espèce de joli coup du sort, et finalement, voilà. Et puis en plus, il s'avère que on a beaucoup de copines et de copains qui sont sur des groupes qui sont chez Manic Dépression. On avait fait la première partie de Je t'aime qui sont chez Manic
Oui.
Dépression. Claire est amie avec Louisa de Cold Cause qui sont chez Manic Dépression.
D'accord.
Donc en fait, c'est une famille, c'est à la fois une histoire de famille, de contact, d'amitié et de logique parce que on est quand même une vraie gothique et c'est un label de goth, de musique goth.
Ce côté justement second degré, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, par essence chez vous, ou est-ce que vous le travaillez spécialement pour le groupe Une Vraie Gothique? Parce que déjà rien que le nom, c'est faut aller quand même oser, quoi.
Ouais.
Pourquoi?
Bah, en fait, il y a toujours une espèce de. Alors, c'est un ressenti personnel, hein. Il y a toujours une espèce de. Est-ce que tu fais semblant d'avoir une espèce de mal-être? Est-ce que tu es vraiment gothique? Enfin, il y a eu. Je repensais à ça, en fait, justement, en préparant l'interview, à tout le mouvement true black metal avec jusqu'où je peux aller, etc. Et donc, affirmer, bah ouais, moi, je suis une vraie gothique. Et ça me faisait penser aussi à l'interview que j'ai donnée au Hellfest avec les gars de Sang-Froid, qui me disaient que eux, pendant leur période de lycée, en fait, ils pouvaient pas dire qu'ils écoutaient de la musique goth parce qu'ils faisaient du métal aussi. Et donc, c'était mal vu. Alors que là, en fait, ils assument, ils m'ont fait une espèce de coming out goth sur cette session-là, puisqu'ils jouent dans d'autres groupes de métal, effectivement. Et je me suis dit, mais à un moment, en fait, une vraie gothique, mais en fait, il n'y a que toi qui sais. Donc, ce que pensent les autres, enfin, allez vous brosser si ça vous plaît pas, quoi. Et je trouve ça à la fois drôle et en même temps tellement assumé. Et je voulais savoir, vous, votre état d'esprit par rapport à ça.
Bah alors en fait, moi je suis très contente que tu aies vu le lien avec le true black metal parce que moi il y avait vraiment ça. J'ai toujours trouvé ça trop drôle et trop débile en même temps. Enfin, moi, je vais peut-être m'attirer les foudres de true black métalleux, mais de se dire ah ben non, si c'est pas vraiment complètement crade et qu'on n'a pas mangé le cerveau de notre chanteur, on fait pas du true black metal. Genre à quel moment quoi, enfin, et vraiment cette injonction à la pureté en fait qui se lit derrière ça quoi, et aussi cette difficulté à estimer que oui c'est moi en fait, et donc ça suffit. Moi j'estime que c'est bon, je suis en adéquation dans ma démarche, et que le fait de ne pas être le plus grand black metal du monde, puisque c'est impossible, est acceptable. Tu vois, enfin, et en fait, ça révèle finalement beaucoup d'idéalisation, beaucoup d'interdits qu'on se met, beaucoup de capacité aussi à définir son identité. Alors même que ces musiques-là, en fait, elles sont souvent beaucoup utilisées pour créer de l'identité, faire travailler les identités, partager des identités. Et en fait, je pense que ça nous est venu surtout, enfin, tu demandais finalement le second degré qui est en charge de ça, c'est plus Ferdinand, je dirais. Et à un moment, tu m'as dit, bah, en fait, on fait de la musique goth, on est une vraie gothique, quoi, point barre. Et moi, j'étais là, mais quand même. Et je me souviens, tu m'as dit, mais si on faisait du zouk, on s'appellerait une vraie zoukeuse. Et ça serait très bien aussi, quoi. Et je dis là, bah, en fait, ouais, c'est vrai. Si on sort un truc de zouk, et bah, on dira, on s'appelle une vraie zoukeuse, et puis c'est très bien, quoi. Et donc, finalement, il y a la question de l'identité un peu comme un masque qu'on va pouvoir finalement porter un peu, s'en amuser. Et alors moi, il y avait, peut-être je pars un peu loin, mais un livre de Chair de poule qui m'avait marqué quand j'étais enfant.
Wow.
Parce que dans ce récit-là, justement, il y a un masque qui est mis et l'horreur tient au fait que la personne, elle met ce masque qui est justement enfin, dégoûtant, effrayant, et qu'elle ne peut plus l'enlever. Et en fait, je pense que je ne l'avais pas compris à ce moment-là, mais l'horreur, c'est pas tant que le masque soit effrayant, mais qu'on puisse plus s'en séparer. Et moi, je crois que voilà, ce truc brandit une vraie gothique, c'est une façon de dire c'est bon, en fait, on va pouvoir toujours enlever ce masque vu qu'on décide qu'il est vrai. Et c'est une invitation à jouer avec ça, quoi. Mais tout en respectant, tout en honorant, tout en étant aussi assez sérieux.
Le personnage d'Ulrika, le personnage donc qu'interprète Claire Ulrika sur scène, c'est donc une sorcière. Tous ses textes sont complètement premier degré. Tout ce qui est en allemand, et d'ailleurs, y compris en français, lors du morceau éponyme RDB au cimetière, parce que c'est le seul où elle chante en français sur cet album-là, tout est premier degré. Il n'y a pas de. Y a pas de enfin, ça vient vraiment faire appel à des choses qui sont très, très honnêtes, des ressentis et parfois même des sentiments qui sont difficiles, qui sont durs. En ça, c'est là qu'on retrouve la substance de la mouvance goth dans son côté littéraire, c'est comment est-ce qu'on exprime, dans une forme de poésie sombre, des éléments très difficiles de notre vie, la solitude, la mort, enfin, l'angoisse, tout ce que ça charrie, quoi, tout ce qui est sombre. Et éminemment premier degré chez Ulrika, mon personnage, Ferdinand, qui d'ailleurs, il y a moins de nuances entre ma vraie personne et mon personnage, c'est un forever wannabe. Il essaie d'être gothique. Quand j'étais jeune, je voulais vraiment être goth. D'ailleurs, je voulais être une vraie gothique. Ça vient aussi un peu de là. C'est parce que je voyais les nanas gothiques, j'ai trouvé extrêmement stylées, souvent plus que les mecs goths qui étaient souvent un petit peu des pastiches. Il y avait peut-être soit moins d'efforts fournis, soit moins de compétences là-dedans. Mais il s'avère que les nanas goths que je croisais dans Paris, et en soirée, enfin au lycée d'abord, puis en soirée par la suite, j'ai trouvé extrêmement stylées. Je trouvais qu'il y avait une vraie assise, une vraie posture, quelque chose qui m'impressionnait en fait. Elles avaient quelque chose de très impressionnant, de très intouchable. On n'osait pas trop leur parler, pas trop les approcher. Il y avait quelque chose de très attirant et donc je voulais moi aussi avoir cette posture-là, cette attitude, et du coup j'essaye de faire ça, sauf que c'est moi et qu'en vrai personne n'est dupe, je suis quelqu'un de plutôt joyeux, de plutôt drôle dans la vie, et du coup j'aurais beau essayer de toutes mes forces d'être une vraie gothique, je le serais jamais vraiment. Par contre, je peux toujours essayer et tendre la main à celles et ceux qui comme moi sont attirés par le truc mais seront toujours un peu à côté. On n'a pas du tout la même posture là-dedans, et je pense que on est les deux facettes d'une pièce, en fait. C'est-à-dire que Claire est complètement au premier degré. Moi, je ne le suis pas complètement, mais j'essaie de l'être. Le second degré arrive presque par accident. Et en même temps, il y a aussi, de mon côté en tout cas, un peu on va dire, d'une petite satire quant à la scène goth et la posture. Et on revient à cette espèce de pureté du black metal dont on parlait au début, dans la posture que peuvent avoir certains goths que j'ai vus en soirée, qui sont justement très dans la posture et très moi, je suis les ténèbres et toi, tu n'es pas les ténèbres. Et on s'en amuse aussi parce que, bah, comme dans tout mouvement, il y a des formes d'abus un peu tu vas trop loin, quoi, dans ton délire. Et du coup, ça nous amuse. C'est jamais méchant, il n'y a jamais de méchanceté parce qu'on aime profondément cette musique, on aime profondément cette scène et c'est ce qu'on veut généreusement transmettre. Mais on s'en amuse parfois et
Et
voilà
puis
parce
même
que.
moi, quoi, enfin, parfois je. Enfin, après, je voudrais ajouter que dans ce projet, enfin, Ulrika, elle n'est pas gothique. Ulrika, c'est une sorcière. Donc, enfin, il y a aussi, voilà, une vraie gothique, c'est qui? Enfin, c'est pas moi, puisque Ulrika, elle n'est pas goth, elle s'en fout, c'est vraiment pas son sujet. Enfin, gothique, comment ça? Enfin, Ulrika, c'est plutôt une puissance infernale qui trouve une incarnation à ce moment-là. Enfin, et Ferdinand, bah, c'est pas une vraie gothique non plus. Donc, en fait, c'est aucun de nous deux.
C'est peut-être les gens qui viennent nous voir, et d'ailleurs, on nous pose la question régulièrement. Juste avant qu'on fasse la release party, il y a une personne qui est venue nous voir, qui était là par un peu par copinage, qui nous a dit, mais alors c'est quoi une vraie gothique? C'est qui une vraie gothique? Et on lui a dit, écoute, bah, regarde le concert et dis-nous à la fin si tu as ta réponse. Et finalement, il s'avère qu'elle avait sa réponse. Et je pense que ce qui est beau là-dedans, c'est que chacun...
C'était quoi sa réponse?
Elle n'avait pas vraiment... on n'a pas vraiment été beaucoup plus loin en discussion, c'est juste que ouais, je pense que j'ai compris. Et il n'y avait pas d'explication, okay. Finalement. C'est juste que je pense que chacun va y prendre ce qu'il a envie d'y voir et ce qu'il a envie de prendre. Et en plus, on va en discuter après, mais on propose un panel suffisamment large en termes musical pour qu'en plus, on puisse aller y chercher des choses un peu du côté du post-punk, un peu du côté de la synthwave à des moments, de l'électro-dark vraiment brut, de l'EBM. On touche à plein de styles qui sont affiliés à la mouvance goth, mais finalement, ça montre aussi bah, que c'est énorme et que c'est très, très difficile de dire, au final, qui est une vraie gothique. Est-ce que c'est la nana qui est Batcave, qui écoute les Cure? Est-ce que c'est le cybergoth qui a des tuyaux de douche dans les cheveux? Qui est le vrai gothique, en fait? Et on se posera éternellement la question, je pense.
Justement, pour parler musique et au niveau de votre son, comment est-ce que vous avez réussi à la fin à faire votre setlist? Parce que comme tu disais, il y a plein de styles différents. En même temps, il n'y a pas deux morceaux qui se répondent. Alors, il y a des histoires de rythme, de respiration dans l'album. Et en même temps, il y a une histoire qui se raconte un petit peu au fur et à mesure. Vous vous êtes organisé comment justement sur votre setlist pour commencer avec tellement hâte d'être démoniaque et finir avec RDVE au cimetière?
Si je dois être parfaitement honnête, je ne vais pas te dire, oui, on avait la vision de ce que ça devait être, et puis, non, je pense qu'on a fait. On s'est rencontrés aussi à travers la composition de cet album, parce que c'est notre premier album ensemble, en fait.
Ouais.
Et donc, ça nous a demandé d'apprendre à travailler ensemble, tout simplement. Il y a certains morceaux sur lesquels y a peut-être plus la patte de Ferdinand, d'autres sur lesquels il y a un peu plus ma patte. Et après, comment on construit ça? Je pense que pour nous, tellement hâte d'être démoniaque, c'était évidemment l'intro.
C'était l'ouverture.
Parce qu'il y a vraiment une montée. Et puis en plus, c'est une invitation, quoi. J'ai tellement hâte d'être démoniaque. C'est... pardon, mais je le dis. Ulrika le dit. Ich kann es kaum erwarten, dämonisch zu sein. Et c'est une invitation à la transe, en fait. Il y a vraiment, venez dans cette nuit, venez danser, quoi. Et après, je pense qu'on a vraiment raisonné en se disant, OK, le morceau, il arrive là, et ensuite, on a envie d'aller où? Avec tous les morceaux qu'on a écrits déjà, qu'est-ce qui nous semble évident pour que ça soit un voyage agréable et en enchaînement cohérent, quoi, avec toujours la même logique, un peu, il y a une montée, petite redescente et remontée, quoi.
Dans la structure, moi, je savais que je voulais que l'auto du démon soit avant Chasse aux sorcières, parce que pour le coup, c'est deux morceaux qui se répondent. Ça veut dire que l'auto du démon, dans l'auto, c'est chaque morceau est un peu une rencontre entre nos deux personnages. Et il y a une espèce de côté multiverse où c'est pas toujours les mêmes rapports de force entre les deux. Dans l'auto du démon, Ferdinand est au bord de la route. Enfin, il conduit. Alors, on est vraiment dans de la fiction parce que j'ai même pas le permis. Donc, on imagine qu'il est en train de conduire et il adore l'automobile. Il est très content de sa bagnole et il rencontre cette sorcière sur le bord de la route qui finit par sa voiture finit par dévorer sa bagnole. Plus tard, dans Chasse aux sorcières, Ferdinand revient et avec l'alliance avec Super Shotgun qui fait de la synthwave et qui est un copain à moi, qui est Igor et qui en plus est un collectionneur de gros flingues et tout ça, il se dit qu'il va devenir chasseur de sorcières parce que quand même, il n'a vraiment pas digéré de s'être fait piquer sa bagnole. Donc, tout le couplet un peu râpé de Chasse aux sorcières, c'est le mec, il adhère à des propos masculinistes mais qui sont hyper outranciers, il veut des gros guns, il veut chasser les sorcières. Donc, on savait qu'il fallait que ce soit dans cet ordre-là parce qu'il y a un peu d'humour pour le coup dans Chasse aux sorcières et dans un registre beaucoup plus sérieux. Moi, je voulais que RDV au cimetière termine l'album parce que c'est le morceau, pour le coup, vraiment, à mon sens, le plus authentiquement honnête. On n'a pas du tout la même histoire avec Claire, on n'a pas du tout la même manière d'être d'entrer là-dedans, on pourra en parler si tu veux, mais il fallait que ce soit le morceau clôture où on se dit, voilà, là on arrête, si à un moment donné on s'est amusé, on a joué, là on ne joue plus. Et en même temps, on vous donne quand même RDV au cimetière, donc il y a quand même toujours un petit peu de candeur, de jolie candeur avec RDV au cimetière, sauf que RDV au cimetière n'a pas du tout le même sens pour moi, qui dit, viens on se donne RDV au cimetière comme des gothiques et tout, que pour Ulrika, qui dit RDV au cimetière, rendez-vous quand on sera mort, en fait. C'est pas du tout le même sens. Et
Mais c'est surtout, RDV au cimetière, c'est je vais me suicider, en fait. Hein.
Ouais, voilà. Enfin, donc, tu vois, j'avais même pas ce truc-là. Donc, je crois que tu m'as peut-être déjà mentionné, ouais. mais en tout cas, on n'est pas du tout au même pied, et en même temps, on est fondamentalement honnête dans nos couplets respectifs là-dedans, donc il fallait que ça finisse. Pour le reste, ça s'est fait un petit peu, ouais, comme ça. Est-ce que tu trouves que ça se répond bien? Là, faut un petit peu marquer une pause. Là, on a enchaîné deux morceaux assez EBM, genre Messe Noire, Nuit Ardente, ça boum boum bien. Peut-être qu'on redescend un petit peu pour laisser aussi le temps aux gens de respirer. On a structuré ça un petit peu comme ça, quoi.
C'est un travail qui se fait en répétition ou est-ce que vous êtes plutôt ambiance un peu calme, genre avec des claviers, un petit logiciel et puis après vous voyez ce que ça donne avec du maquettage?
Ouais, c'est vraiment, bah moi c'est intéressant parce que j'ai d'autres projets musicaux que j'ai composés complètement différemment, uniquement avec vraiment l'énergie de l'improvisation ensemble. Et avec Ferdinand, on a rarement improvisé ensemble, quelquefois, mais c'est pas le nœud du travail. Et en fait, en général, ce qui fonctionne bien, c'est quand c'est lui commence un morceau, donc avec vraiment une basse. Alors on travaille ensemble la basse, mais plus le rythme. Moi, je suis moins douée pour débuter des rythmes. Et une fois qu'il y a un début un peu de structure qu'on a défini ensemble, et il travaille un peu tout seul, ou alors je travaille un peu toute seule, histoire d'apporter vraiment une patte ou un parti pris. Et ensuite, on en rediscute et on refait une V2. Et en fait, il y a toujours ces mouvements. Alors, ça ressemble un peu à du Cadavre exquis. Il y a un mélange, quoi. Enfin, mais en tout cas, je pense que tous les deux, on a besoin à un moment d'être tout seul face à l'écran et de ce truc un peu répétitif, de tester des sons, d'aller chercher, mais qui correspond effectivement pas du tout à l'énergie de l'impro, de la jam, et qui en même temps, moi, m'est très confortable parce que en fait on utilise des VST et des sons qui nous intéressent bien. Ça nous permet de sampler, ça nous permet d'aller chercher aussi quelque chose d'un peu systématique et d'assez droit. Et qu'après, moi, je vais aller venir un peu déstructurer, je vais amener vraiment, et hop, un petit contretemps par là. Ah, ok, le clavier là, il commence sur le temps. Ok, après, je le fais commencer à contretemps, etc. Et c'est dans cet espace, finalement, que ma dimension parfois chaotique dans la composition, enfin, moi, il faut savoir que j'ai une pratique aussi de chant médiéval, enfin, j'ai vraiment plus. Voilà, enfin, ce qui m'intéresse, c'est l'analogique, la distance entre les choses, enfin, des trucs un peu plus subtils comme ça. Et donc, vu qu'il y a finalement le cadre de la composition sur ordinateur, ça permet de mettre ça tout en restant dans un style de musique qui est assez identifié dancefloor, en fait.
Ouais, bah oui, bah pour compléter, en fait, moi, c'est vrai que je vais avoir tendance à être un poil rigide. Je suis très droit parce que je pense que j'ai quand même fait pas mal de techno. Et du coup, pendant très longtemps, avec mes précédents projets, j'avais des choses très médium, très droit. Et clair se permet beaucoup plus de souplesse et de côté un peu organique et de trucs qui va être un peu hors le temps ou qui va vraiment sonner, qui va donner quelque chose de beaucoup plus vivant. Et c'est ça qui est super, c'est que du coup, on se complète pas mal là-dessus, où je vais apporter une espèce de solidité de dancefloor, où voilà, il y a des hâtes à contretemps qui arrivent à ce moment-là, des choses qui sont efficaces, qui fonctionnent. Je vais pouvoir trouver des sons qui me plaisent bien, qui me rappellent tous les trucs électro d'art que j'écoutais. Et derrière, ouais, Claire va venir vraiment un peu foutre le bordel un peu dans le morceau. Et ensuite, on va se revenir en se disant, tiens, bon là, t'en as peut-être mis un peu trop ici, on va en retirer un petit peu. Effectivement, on travaille comme ça avec des work in progress. On a genre whip 1, whip 2, whip 3, et on s'envoie à chaque fois on s'envoie, mais ça arrive qu'on travaille dans la même pièce, c'est-à-dire qu'elle peut être sur l'ordi pendant 2 heures. Moi, je suis à côté, je fais autre chose, et ensuite on inverse, quoi. Mais c'est vrai que on a beaucoup travaillé ensemble à des moments, et ces derniers temps, on est plutôt ouais, à laisser le temps aussi à l'autre de s'approprier la chose. Et il y a toujours des moments, des points d'étape clés où on se remet ensemble pour structurer notamment, pour se dire, OK, là. Il faut que quand même que ça ressemble à peu près à quelque chose, à une chanson. Donc il va falloir qu'on structure un peu le tout et qu'on prenne des décisions, qu'on enlève certaines choses. Souvent il y a trop de choses, il faut enlever des trucs. Mais ça voilà, beaucoup de musiciens et musiciennes qui bossent sur ordi connaissent ça. Se dire qu'effectivement c'est pas parce que tu rajoutes quelque chose que tu auras plus de dynamique. Parfois c'est juste en retirant un synthé que tu fais exister un autre élément, quoi.
Et sur le live, ça donne quoi? Puisque vous êtes deux pour créer, vous êtes deux aussi sur scène avec les machines, vous vous organisez de quelle façon? Je veux dire, est-ce que tout est programmé ou est-ce que vous avez quand même quelques petites manipulations
Alors, pour
d'instruments ou tout ça?
la plupart est programmée quand même, parce que le choix qu'on fait, c'est celui d'incarner vraiment les personnages sur scène. Et moi, d'expérience, il y a quand même un choix qui se fait entre jouer d'un instrument ou jouer un personnage, quoi. Parce que jouer d'un instrument, ça veut dire que forcément, on est contraint derrière l'instrument, en fait, sauf si on a une guitare et que vraiment, on peut faire plein de trucs, mais c'est pas notre cas à tous les deux. Donc, forcément, on est derrière une table. Et donc forcément, c'est moins intéressant. Et donc on choisit pour le moment de privilégier vraiment le jeu de scène, la connexion avec le public, le fait de faire un spectacle, vraiment pas juste un concert. Après, j'aimerais pouvoir aussi avoir des moments choisis. Donc ça, c'est ce qu'on a un peu mieux fait lors de notre release party, où il y avait tout un passage à la harpe, notamment, que moi je jouais. Et donc, parce que, enfin, reste que, enfin, moi je suis musicienne, enfin, et on est capable de jouer des trucs sur scène, quoi, c'est pas le sujet. Et j'aimerais bien aussi sélectionner peut-être les morceaux pour se dire, OK, là, dans l'écriture du live et dans l'écriture vraiment du spectacle, c'est justifié qu'à ce moment-là, on joue d'un instrument. Et donc, j'aimerais beaucoup qu'on puisse faire une résidence, en fait, pour construire ça et affiner vraiment notre format complet, quoi.
Pour l'instant, moi, j'envoie les sons avec un Roland SP555, qui est un peu un vieux, un sampler, c'est un vieux dinosaure. J'ai pas vraiment la main sur beaucoup de trucs. Je peux pas restructurer le morceau en cours de route. J'ai quelques filtres, quelques effets, quelques petits samples que je peux ajouter ça et là. Mais c'est beaucoup du, un peu, c'est un peu de la déco. Je veux dire, ça tournerait très bien, même si je touchais rien. Il y a un truc qui est assez amusant avec un espèce de filtre à la main où tu peux jouer sur un peu l'ondulation de ce qui se passe, qui est assez chouette parce que ça donne un côté assez fantomatique. Je peux terminer les morceaux en mettant la main et en faisant baisser le son avec la main. Donc, ça ajoute au côté théâtral. Donc, pour ça, j'aime bien ce côté un peu tactile. Moi, j'ai un peu quand même une volonté, d'ajouter des instruments au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'était pas la priorité parce qu'il fallait d'abord qu'on soit capable de physiquement défendre le set, effectivement, d'assumer le spectacle. On parle entre les morceaux, il y a un côté assez drôle. Le second degré vient beaucoup du fait que Claire parle allemand, s'adresse en allemand au public, y compris quand les gens ne comprennent absolument pas l'allemand, et moi je traduis, sauf que je parle pas d'allemand. Donc je traduis ce que je pense comprendre. Donc il y a directement un effet comique et il y a ce truc-là qui fait que bah effectivement on est plus sur on interprète nos chansons, on chante par contre on chante nos morceaux quoi et on va jouer sur la présence, sur un peu l'interaction. Je vais venir parfois m'approcher d'elle, elle va j'ai un petit collier, un petit choker, donc des fois elle peut m'attraper par le collier sur un monde noir qui est un morceau sur le vampirisme pour venir me vampiriser un petit peu. On va appuyer un peu ce côté théâtral et c'est vrai que du coup bah, je paraphrase un peu ce qu'elle disait, mais pour l'instant, on ne peut pas trop se permettre d'être enfermé derrière un clavier parce qu'on y perdrait. Maintenant, effectivement, moi, j'ai quand même cette volonté-là parce que j'ai envie de proposer le set le plus complet possible, y compris dans une partie instrumentale, et d'avoir à terme la possibilité, en plus, d'avoir des versions live qui diffèrent des versions studio. C'est un enjeu qu'on a en tête qui va venir dans un second temps. Puisque là, on essaie déjà d'asseoir bien le live qu'on propose en l'état, sachant que maintenant, on va devoir défendre l'album et qu'on va voyager. On va jouer à Strasbourg, puis à Rouen. On a aussi un setup qui est transportable assez facilement. Et ça, c'est chouette aussi, parce que transporter plein de synthés, c'est pas pareil. Donc, on y réfléchit. Ça va venir, je pense. J'ai envie, moi, qu'on ait un clavier. Au début, ça sera peut-être un morceau où on va jouer plus du clavier. Voilà, on va voir progressivement. L'idée, c'est d'avoir le set le plus complet possible, à terme, avec des instruments joués, des décors, des lumières, et d'avoir le spectacle le plus complet possible pour avoir le spectacle gothique ultime à terme. Et qui satisfait tout le monde, tu vois. Tout le monde dit, waouh, ouais, il y en a pour. J'en ai pour mon argent, quoi.
Vous êtes invité à une soirée anniversaire. Le problème, c'est que sur les 5 soirées anniversaires où vous êtes invité, vous pouvez aller à une seule, puisqu'elles sont toutes le même soir. Donc vous pouvez soit aller aux 30 ans du premier film Scream, aux 40 ans de la sortie du jeu vidéo Zelda, aux 50 ans du roman Entretien avec un vampire, aux 40 ans de la série animée Dragon Ball ou aux 60 ans de Star Trek. Vous allez où?
Bon, l'entretien avec un vampire, forcément.
Même si Anne Rice est décédée, il me semble. Oui.
Ouais, mais
Du coup, c'est vrai que ça aurait été. Ouais.
on sera tous déguisés en vampire, ça sera super.
Mais oui. Oui.
Moi,
Oui.
oui, après
Oui.
toi.
Non, mais oui, parce qu'en plus, c'est vraiment le genre de soirée où le morceau Un monde noir peut passer. Surtout sur le morceau Un monde noir, où j'invite vraiment les gens. Quand j'ouvre Un monde noir, des fois, je leur dis, imaginez que c'est l'ouverture du film Blade, sauf qu'il n'y a pas Wesley Snipes qui vient pour foutre la merde, quoi. Et c'est un peu ça, un monde noir. C'est un peu genre, c'est un morceau full vampire. Faut s'imaginer ta soirée vampire parfaite. Et voilà, c'est hyper entêtant. Donc, ouais, oui. Entretien avec un vampire.
Ben, merci beaucoup.
Ouais, merci. Ouais, c'est toujours cool. Nous, ça nous fait du bien de pouvoir discuter de ça avec des gens cool et intéressés et intéressants.
Merci à vous. Et puis, rendez-vous éventuellement un jour sur la route, puisque c'est quand même là où ça se passe. Et puis, j'invite tout le monde à aller
Ouais.
écouter, puisque votre album est sur les plateformes. Et puis, écouter un peu plus, justement, une vraie gothique.
Merci beaucoup, Xavier.
Merci.
Merci l'autre monde.